Franchement, vous croyez que c'est dans les tribunaux qu'on va régler le problème du dérèglement climatique ? Bon, alors on va dire que c'est symbolique. C'est une façon symbolique de dire on n'en fait pas assez. Mais l'écologie qui agit, ce n'est pas facile. Alors si Monsieur Carême a des idées pour que ce soit plus facile, pour que ce soit que beaucoup plus de Français encore y participent, des entreprises y participent et disent on va plus vite, on va plus loin, on va plus fort, moi je serai le premier à en être évidemment satisfait.
Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la justice française au secours de la planète, un recours va être déposé jeudi devant le tribunal administratif porté par 4 ONG qui accusent l'État français d'inaction climatique. En parallèle paraît un bref manifeste pour une justice climatique, comment nous allons sauver le monde, c'est son titre, et c'est chez Massot Éditions. À l'agenda également, en fin de semaine, une mobilisation mondiale pour le climat à l'initiative du mouvement international Youth for Climate. Vendredi et samedi en France, une marche du ciel à l'appel de 140 associations. Pour en parler, aujourd'hui, deux signataires de la pétition L'Affaire du siècle, qui avait réuni en quelques jours, on s'en souvient, en décembre dernier, plus de 2 millions de personnes. Audrey Pulvar, ancienne présidente de la Fondation Hulot, aujourd'hui directrice générale d'African Pattern. Bonjour.
Bonjour.
Et la juriste Fanny Gianceto, spécialiste de justice climatique, membre de Notre Affaire à tous, fondatrice d'Écotable. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous êtes l'une et l'autre, vous faites partie du club de cette écologie qui agit, pour reprendre les termes de François de Rugy à l'instant d'ouverture de l'émission, Audrey Pulvar?
Oh oui, oui, absolument. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que toutes les deux, on est dans ce cas évidemment. À la tête de la Fondation pour la Nature et l'Homme, Fondation Hulot, pendant un an et demi, je n'ai cessé d'agir avec l'équipe, à la fois en plaidoyer, à la fois sur le terrain, en soutenant des projets, en faisant avancer des dispositifs mis en place par la Fondation. Je le fais encore aujourd'hui avec African Pattern, qui est un projet tout à fait différent, et puis je le fais au quotidien, dans ma vie, dans mes usages, dans mon mode de vie. J'essaye au maximum, alors on n'est jamais totalement vertueux, on n'est jamais parfait, évidemment, mais j'essaie au maximum de réduire mon empreinte écologique.
Et de votre côté, Fanny Gianceto ?
Oui, bah, je reprendrai tout à fait les mots de Audrey Pulvar. Au quotidien, évidemment, moi, après, mon arme, elle est double, c'est celle du droit, évidemment, par le biais de la justice climatique, par le biais des actions contre les États pour qu'ils agissent plus, des actions contre les entreprises pollueuses, mais aussi, d'un point de vue personnel, pour essayer de réduire mon empreinte environnementale, et via Écotable, vous l'avez mentionné, qui vise à réduire l'impact environnemental de la restauration, donc... C'est quelque chose aussi ici pour lequel j'essaie d'agir.
Alors il y a aujourd'hui une écologie qui agit en justice. Un recours porté par la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, Notre Affaire à tous et Oxfam France va donc être déposé ce jeudi. Il vise à faire sanctionner l'État français pour carence fautive. Alors, on connaît la carence en sucre, on connaît la carence en nicotine. Ici, de quelle carence parle-t-on ? Qu'aurait-il dû faire l'État qu'il n'a pas fait pour lutter contre le changement climatique ? Fanny Gianceto.
Alors en fait, l'État s'est engagé à agir. Et c'est en ça une action extrêmement démocratique. Il s'est engagé en signant la Convention européenne des droits de l'homme. Par exemple, on retrouve ici le droit à la vie, l'article 2, ou le droit au respect à la vie privée et familiale. Il s'est engagé via l'Union européenne, qui s'est elle-même engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et il s'est engagé constitutionnellement par la Charte de l'environnement. Or, on regarde que ces engagements n'ont pas été remplis. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas été réduites. Au contraire, elles ont continué à augmenter. Alors qu'il y avait des engagements de réduction chiffrés. Et pour tout le reste, c'est la même chose, que ça soit l'agriculture, bien évidemment, où on est à peu près à entre 30 et 40% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est assez énorme, et pourtant il n'y a pas d'action pour réduire l'impact environnemental de l'agriculture, pour l'agriculture biologique, etc. Et puis deux autres carences, la carence en matière énergétique et la carence en matière de transport aussi, qui est assez évident. Je vous donne un exemple, l'État a investi 276 millions pour les routes, et en comparaison, il a investi 78 millions pour le train. alors que le train aujourd'hui est un mode de transport durable, contrairement à la voiture.
Alors avant d'envisager ce recours en justice, vous avez demandé à rencontrer, à discuter avec le gouvernement et les pouvoirs publics. Dans une lettre de 10 pages intitulée « L'action en faveur du climat de l'État français », le ministre de la Transition écologique François Drugy vous a répondu « Le gouvernement actuel est sans nul doute celui qui a poussé l'ambition le plus haut en fixant dès le début du quinquennat l'objectif d'atteindre zéro émission de CO2, soit la neutralité carbone d'ici 2050. Depuis, nous donnons les moyens de l'atteindre. Je pensais qu'il avait ajouté tout, mais non. Depuis, nous donnons les moyens de l'atteindre. Donc, visiblement, c'est pas suffisant. Est-ce qu'en fait, vous attendez de l'État, du gouvernement, des pouvoirs publics, des mesures concrètes? Quelles seraient ces mesures prioritaires qui devraient être mises en œuvre pour vous rassurer?
Déjà qu'il accélère et qu'il amplifie de façon assez spectaculaire la rénovation énergétique du bâtiment et les plans d'efficacité énergétique, parce que là il s'agit non seulement de à la fois de mettre à l'abri les plus précaires, les personnes, les millions de Français qui sont exposés chaque année à la précarité énergétique, et c'est un phénomène qui s'amplifie évidemment avec le dérèglement climatique. Il s'agit aussi de rendre les bâtiments plus efficaces énergétiquement, donc de restituer du pouvoir d'achat aux ménages, mais aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment et diminuer la consommation énergétique du bâtiment. Ce qui permet, par ailleurs, puisque tout ça est en réaction en chaîne, d'améliorer le mix énergétique, puisqu'on peut faire monter dans le mix énergétique la part d'énergie renouvelable et alimenter le bâtiment, les véhicules, nos usages quotidiens avec des énergies renouvelables plutôt qu'en maintenant le thermique et le nucléaire. Donc ça, par exemple, c'est un sujet sur lequel l'État est pour le moment très en dessous de la main. Mais ma voisine parlait à l'instant des engagements pris par la France et des chartes signées. Il y a un petit engagement là dont on a beaucoup parlé il y a quelques années, il y a 4 ans, c'est l'accord de Paris, évidemment. L'accord de Paris qui, comme son nom l'indique, a été signé en France, sous l'égide, entre guillemets, de la France.
France est justement à l'initiative de cet accord, quand même.
Voilà, cas, et on s'est beaucoup glorifié de cet accord, mais on ne se donne pas les moyens de l'appliquer.
Est-ce que l'État français peut être tenu responsable du retrait de certains pays de cet accord?
Je regarde évidemment les États-Unis,
ou du non-respect des principes fixés par d'autres États.
Mais l'État français est responsable de ne pas lui-même se donner les moyens d'atteindre les objectifs fixés par cet accord de Paris dont il est signataire. L'État ne le fait pas. Et quand François de Rugy répond dans sa lettre de 10 pages, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, nous faisons déjà assez et nous ne ferons pas plus que ce que nous faisons déjà, je pense que là aussi, sa réponse est un peu insatisfaisante. D'autant plus que la France se glorifie de taux d'émissions de gaz à effet de serre exemplaires. Bon, pas si exemplaires que ça, puisqu'ils sont repartis à la hausse depuis 2 ans. Et surtout, elle oublie de calculer, de faire entrer dans ce calcul ces externalités négatives. Et là, quand on se pose la question des externalités négatives de la France, c'est-à-dire des effets et des émissions de gaz à effet de serre que produisent nos modes de vie, nos importations, le type de produits et les accords commerciaux que nous avons avec des pays étrangers, par exemple, à ce moment-là, on se rend compte que finalement, nos émissions de gaz à effet de serre sont aujourd'hui au même niveau qu'en 1995. Que la France n'a fait aucun progrès depuis. Donc, il faut faire entrer dans le calcul, et c'est ce que font les ONG qui lancent ce recours contre l'État, il faut faire entrer dans le calcul tous les paramètres, avec le maximum d'honnêteté, de sincérité possible, et se poser la question des moyens effectifs que l'État français, pas seulement sous ce gouvernement, pas seulement sous ce quinquennat, mais aussi dans les précédents, a mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Concrètement, je crois que les Français, les personnes habitant en France, il n'y a pas que des Français qui habitent en France, se rendent bien compte tous les jours à quel point le réchauffement climatique a aussi des conséquences ici et dès maintenant, et combien elles se retrouvent finalement exposées aux effets de ce réchauffement climatique sans avoir la sensation que tout est fait pour les en protéger.
à la décharge du gouvernement français, Fanny Jancetto, il a voulu la taxe carbone. Ça a engendré en partie ce qu'on sait ou ce qu'il a connu derrière, donc le mouvement des Gilets jaunes, donc retrait de cette mesure. Mais ça pose quand même la question de la verticalité aussi de ce type de décision et de la finalité de ce type de taxes quand elles sont imaginées. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le rôle de l'État ou le rôle de chacun d'agir pour le climat aujourd'hui?
C'est tout en même temps.
Bien sûr, c'est tout en même temps, mais c'est peut-être même avant tout le rôle de l'État. Pour la taxe carbone, les associations de l'Affaire du siècle ont mis en avant sur le site de l'Affaire du siècle 6 mesures prioritaires. La première, c'est la fiscalité juste, parce que on ne conçoit pas de mesures environnementales qui ne soient pas accompagnées socialement. Et pour la taxe carbone, c'était flagrant, elle était imposée à tout le monde, et pour les plus pauvres, ça revenait à un pourcentage sur leur revenu 4 fois plus élevé. Et en comparaison, on a 10% des plus riches français qui émettent 40 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est en l'occurrence pas ces pauvres qui émettent le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, bien sûr, une taxe carbone. Et il faut une taxe carbone. Mais une taxe carbone juste socialement, qui touche tout le monde, qui touche les plus pollueurs et qui soit accompagnée socialement.
Oui, sur la taxe carbone, c'est vraiment une illustration assez impressionnante de la façon dont une bonne idée peut être pervertie. D'abord, effectivement, en France comme partout ailleurs, plus on s'élève dans l'échelle sociale, plus on est émetteur de gaz à effet de serre, plus on a de moyens de se protéger des effets des gaz à effet de serre, et plus, en général, on est parmi les preneurs de décision. Plus on est bas dans l'échelle sociale, moins on est émetteur de gaz à effet de serre, plus on subit les effets des émissions de gaz à effet de serre et des dérèglements climatiques, et moins on a voix au chapitre. Sur cette histoire de la taxe carbone, il s'agit d'une fiscalité dissuasive. Il s'agit de faire en sorte que, via la fiscalité, les consommateurs, les citoyens, soient dissuadés de faire appel aux énergies fossiles. Évidemment, ce sont les catégories sociales les moins fortunées, les moins loties, qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser ces énergies fossiles. Par exemple, on a souvent cité l'exemple de ces personnes qui sont obligées d'utiliser leur véhicule pour faire le trajet domicile-travail et qui utilisent des véhicules diesel et qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Face à ça, l'idée que défendaient les ONG, c'est que le produit de la taxe carbone, qui est une bonne idée au départ, cette taxe, que le produit de la taxe carbone soit entièrement dévolu à la transition écologique et solidaire et en grande partie dévolu à l'accompagnement des classes les plus défavorisées dans la transition écologique. C'est-à-dire aider les personnes, mais les aider vraiment, pas les aider de façon anecdotique, aider les personnes soit à changer de véhicule pour un véhicule moins polluant, soit mettre en place des infrastructures qui permettent à n'importe quel citoyen sur l'ensemble du territoire d'avoir le choix de ne pas utiliser une voiture, parce que aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui sont piégés dans le fait de devoir utiliser leur véhicule. C'est aussi les accompagner avec la rénovation énergétique du bâtiment dont je parlais, c'est les accompagner pour les aider par exemple à changer de chaudière. Tout un tas de mesures d'accompagnement social de la transition qui auraient rendu beaucoup plus logique et transparente l'application de cette taxe carbone et l'utilisation des fonds générés. Et puis, la taxe carbone, c'est une série d'enfumages. D'abord, cette taxe, elle a été initiée au moment du Grenelle de l'environnement. Elle a été effectivement créée sous le quinquennat Hollande. Et c'est sous le quinquennat de François Hollande qu'il a été décidé, alors que Ségolène Royal était ministre de l'Environnement, que le produit de cette taxe servirait essentiellement à compenser le CICE, c'est-à-dire des baisses de cotisations sociales pour les entreprises. Donc c'est pas d'aujourd'hui que le produit de cette taxe ne sert pas, en grande partie en tout cas, à financer la transition écologique et solidaire. Et puis, on a l'impression, quand on écoute les infos, que la taxe carbone, c'est fini, qu'il n'y en a plus, qu'elle a été supprimée en 2019. Sauf que c'est faux. La taxe, elle continue, elle existe toujours, elle produit toujours une recette d'environ 9 milliards d'euros par an pour l'État. Ce qui a été supprimé, c'est l'augmentation, c'est la fameuse trajectoire, l'augmentation qui était programmée de la taxe carbone. Et c'est le produit de cette augmentation, 3 milliards d'euros, pour 2019, 30 milliards d'euros à l'échelle du quinquennat, que les ONG, dont les ONG signataires de l'affaire du siècle, voulaient voir attribuer à la transition écologique et solidaire et à l'accompagnement des classes populaires. Nous avons défendu cette idée pendant des mois auprès du gouvernement, en l'alertant justement sur le fait que cette augmentation prévue, cette trajectoire prévue au 1er janvier 2019 allait être mal acceptée par les classes populaires. Nous n'avons pas été entendus et on a vu le résultat que cela a donné. Aujourd'hui, la taxe, effectivement, ces 3 milliards-là, la taxe a été supprimée. Donc ces 3 milliards de recettes en moins pour la transition écologique et solidaire, et en moins pour accompagner les classes populaires.
Avant François de Rugy, c'était Nicolas Hulot. Qu'est-ce qu'il répondait à ça, sur ce changement de trajectoire?
Il soutenait le principe de la taxe carbone. Mm-hmm. Il soutenait le principe de la taxe carbone et le principe de la trajectoire. Et il a toujours soutenu l'idée que la fiscalité écologique, qui selon lui, et selon moi aussi, est une bonne idée, soit dévolue, en tout cas le produit de cette fiscalité, soit dévolu à l'accompagnement des classes populaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a insisté pour que l'intitulé de son ministère, quand il est entré au gouvernement, soit le ministère de la transition écologique et solidaire. On oublie toujours le « et solidaire ». Cette solidarité, elle s'impose, elle est indispensable, puisque le réchauffement climatique est un amplificateur d'inégalités. C'est un accélérateur d'inégalités et de précarité. Le réchauffement climatique rend plus précaires les personnes déjà précarisées, plus pauvres les personnes déjà pauvres, et il agrandit les inégalités entre très riches et très pauvres.
Alors pour essayer de déminer cette histoire d'action en justice contre l'inaction climatique du gouvernement, François de Rugy vous a invité à participer au grand débat national, à venir donner votre point de vue, vos idées, et qui serait mise dans un grand panier. Vous y êtes allé, il y a eu une rencontre entre les ONG et le ministre de la Transition écologique. Mais j'en reviens justement sur ce point-là, à ce que l'État aurait dû faire à vos yeux et sur ce que l'État peut faire. Aujourd'hui, le grand débat national est en train de se conclure. Il y a quand même quelques propositions qui ont dû être faites. Qu'est-ce qui, d'après vous, Fanny Gianceto, pour qu'on avance, peut faire objet de consensus entre les pouvoirs publics et les citoyens? Quelles sont les mesures qui pourraient émerger de ce grand débat et être applicables avec le soutien de la population aujourd'hui?
J'en reviens tout simplement aux 6 mesures que l'on met en avant sur le site de l'affaire du siècle et qui sont mises en avant par les 4 ONG qui sont porteuses de cette action. Donc je vous ai parlé déjà de la fiscalité plus juste. Deuxièmement, créer un service public local de la rénovation énergétique. Audrey en a parlé tout à l'heure, mais la rénovation énergétique, c'est un enjeu énorme pour lequel il y a eu un sous-investissement par rapport aux besoins. Troisième mesure, donner la possibilité à tous de se déplacer proprement, en investissant dans les transports durables, en interdisant la vente de véhicules diesel en 2030. Quatrièmement, instaurer les moyens d'accès à l'alimentation durable, c'est premièrement par la PAC qui va être révisée, politique agricole commune, qui va être révisée au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui, la PAC, elle donne le plus d'argent à l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire que plus on a d'hectares, plus on a de terres, plus on a de subventions. Il faut absolument repenser cela. C'était peut-être pertinent au moment de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale où il fallait produire sur des espaces importants. Aujourd'hui, il faut revenir à une agriculture paysanne, il faut revenir à une agriculture agroécologique. Donc, il y a besoin de repenser ces subventions. Enfin, cinquièmement, le développement d'énergies renouvelables. Ça, c'est un point absolument essentiel. On n'arrête pas de parler, par exemple, aujourd'hui, des véhicules électriques. Or, aujourd'hui, les véhicules électriques, ils sont alimentés, notamment par des centrales à charbon. Ce qui pose un énorme problème climatique. Donc, on va avoir un impact environnemental plus fort pour ces véhicules électriques. Donc, il y a absolument besoin que l'énergie vienne d'ailleurs, vienne de sources propres. Et enfin, sixièmement, la fin des investissements dans les entreprises polluantes et plus généralement dans les secteurs polluants, avec une politique de désinvestissement massive sur ces questions-là.
Je pense qu'il faut, alors effectivement, il y a évidemment un certain nombre de mesures concrètes à mettre en œuvre, mais il faut une révolution aussi dans les esprits. C'est-à-dire un changement de logiciel. On est encore en France, et c'est pas le cas partout ailleurs, mais on est encore en France, avec ce gouvernement, avec ce quinquennat, dans une logique selon laquelle on va essayer d'adapter le système actuel pour éviter au maximum d'augmenter notre empreinte écologique, pour éviter au maximum d'aggraver le problème, mais en gardant finalement le système tel qu'il va. C'est-à-dire en continuant de donner la priorité au tout routier par rapport au transport collectif public, par rapport au rail, par rapport aux transports les moins polluants, c'est-à-dire en continuant à promouvoir l'énergie nucléaire malgré tous les dangers qu'elle recèle, et surtout le coût astronomique de l'énergie nucléaire qui nous empêche, puisqu'on met tant d'argent dans le nucléaire, de développer les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on continue à se dire, comme l'a dit le président de la République, la transition écologique, ça coûte cher, alors que ce qui coûte cher, en réalité, c'est la non-transition écologique. C'est de ne pas prendre en compte le risque écologique, c'est de ne pas mettre en œuvre, justement, comme le réclament les ONG signataires de l'affaire du siècle, les mesures qui permettraient de faire efficacement face aux effets du réchauffement climatique. C'est ça qui coûte cher. Ce sont tous ces départements qui subissent des inondations régulièrement. Ce sont tous ces agriculteurs qui font face à des périodes de sécheresse, des écarts de récolte, des perturbations dans le cycle de leur culture, c'est ça qui coûte cher. Donc c'est de ne pas s'attaquer au problème qui coûte cher. Et puis je rajouterais peut-être un point aux six mesures d'urgence réclamées et dont Fanny parlait à l'instant, c'est la question de notre empreinte numérique. Aujourd'hui, nos usages numériques dans le monde représentent 4% des émissions de gaz à effet de serre du monde entier, c'est-à-dire l'équivalent de l'ensemble du continent africain. L'ensemble du continent africain, qui est l'un des moins émetteurs de gaz à effet de serre, alors qu'il est l'une des principales victimes des effets des émissions de gaz à effet de serre, émet autant de gaz à effet de serre que nous tous sur Terre avec nos usages numériques. Et comme on sait que le numérique va prendre une place de plus en plus mal partie importante pour réduire nos usages, dans nos vies, il faut aussi qu'on se pose cette question-là.
De comment compenser ? Bon, on a vu à peu près les mesures qui vous semblent prioritaires de ce qu'il faudrait pouvoir atteindre aujourd'hui. Maintenant, comment faire ? Des mobilisations, des marches, on l'évoquait, qui sont prévenues ce week-end, une fois encore, pour sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics à l'urgence climatique. Et cette action en justice, ce recours qui va être déposé ce jeudi par 4 ONG. On en parle avec vous, Fanny Gianceto. Je rappelle que vous êtes juriste, spécialiste de cette question de la justice climatique, membre de l'affaire du siècle, de notre affaire à tous. Et avec vous, Audrey Pulvar, ancienne présidente de la Fondation Hulot, aujourd'hui directrice générale d'African Pattern. France Culture, il est 13h18.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
On sait ce qu'il faut faire, mais quand est-ce qu'on commence ? Sarah réclame l'état d'urgence énergétique. Une autre jeune femme poursuit.
Ce gouvernement semble se satisfaire des petits pas. Alors cessez de nous mentir et surtout cessez de vous mentir. Mesdames, messieurs les ministres, vos victimes, elles sont là. Elles sont devant vous, elles sont autour de vous. Et avec l'affaire du siècle, c'est dès aujourd'hui qu'on vous demande des comptes.
Dans la salle, toutes les mains ou presque se lèvent pour interpeller François de Rugy.
Quand allez-vous commencer à légiférer réellement ? Vous avez la majorité, vous avez même le 49-3 si vous voulez.
Chiffre à l'appui, le ministre répond et assume.
C'est une action de longue haleine. Pour moi, c'est pas l'opposition entre les petits pas et les grands pas. Je pense que si on devait prendre une métaphore sur l'usage de nos pieds et de nos jambes, ce serait plutôt la course de fond.
Beaucoup de jeunes, ingénieurs, chefs d'entreprise, associatifs sont venus exprimer leur colère, mais aussi leurs idées, notamment sur les déchets.
Il faudrait également imposer une signalétique qui soit simple et unique pour tous les emballages lors du tri.
C'est au tour de la secrétaire d'État Brune Poirson de répondre.
Il y a des couleurs de poubelles qui changent d'une ville à l'autre et c'est très compliqué. Donc on va déjà harmoniser les couleurs des poubelles.
Seules 40 personnes ont pu prendre la parole hier soir, mais le ministre promet d'autres débats dans les prochaines semaines.
Voilà, les débats avec les citoyens et les responsables aujourd'hui. L'affaire du siècle, donc, une action prévue pour ce jeudi, poursuivre l'État en justice pour défendre le climat. Est-ce que c'est une action inédite, Fanny Gianceto ? Est-ce que c'est une exception française, ce choix d'aller devant les tribunaux pour attaquer l'État, le poursuivre en justice ?
Absolument pas. Il y a un vrai mouvement, en fait, pour la justice climatique dans le monde. On dénombre plus de 1200 cas dans le monde qui visent à attraire soit les États, soit les entreprises polluantes pour demander des comptes. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier, c'est évidemment le cas de l'affaire Urgenda aux Pays-Bas, où une association a agi de manière similaire au cas de l'affaire du siècle, en carence pour la justice climatique et l'État a été condamné à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2018. Donc c'est d'ailleurs ce qui a incité la création de notre affaire à tous en 2015, parce que la première condamnation devant le premier juge est arrivée en 2015, puis là on a eu la confirmation de la cour d'appel en 2018. Il y a d'autres affaires, il y a une affaire au Pakistan. Au Pakistan, on a...
Juste sur cette première affaire, oui. Est-ce que l'État l'a fait, du coup? Est-ce qu'il a vraiment mis en place des mesures permettant de réduire ses émissions? Ou est-ce que ça marche un peu, Audrey Pulvar, comme avec la parité en politique et des partis politiques qui payent, du coup, des amendes, mais qui ne prennent pas plus de femmes dans leur rang? Est-ce que l'État s'est suffi des sanctions financières ou est-ce qu'il a vraiment mis en œuvre des mesures pour répondre à cette condamnation?
Non, dans le sens où il a fait un recours en cassation contre cet arrêt de la Cour d'appel. Donc, c'est qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec la décision. Mais oui, parce qu'il y a eu une vraie incitation politique. Et en ça, c'est une vraie réponse à M. De Rugy qu'on entendait au début de l'émission, qui disait « Vous croyez qu'on va résoudre la solution devant les tribunaux ?» Oui, en fait. On va la résoudre notamment devant les tribunaux. Ce ne sera pas la seule voie d'action, mais ce sera une voie d'action importante. Et on le voit aux Pays-Bas, l'État s'est engagé par la suite à prendre des mesures supplémentaires.
Alors vous vouliez donner l'exemple aussi du Pakistan, peut-être encore celui-là, en 2015, avec la décision de la Haute Cour de justice.
Tout à fait, qui a créé une commission ensuite pour vérifier que l'État respectait les engagements climatiques qu'il s'est fixés. Un autre exemple, cette fois du côté des entreprises, RWE, qui est un énergéticien allemand, qui est aujourd'hui un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. On a au Pérou un paysan qui a fait une action contre cet énergéticien pour demander à l'énergéticien de compenser son dommage climatique lié à la fonte des glaciers et à l'inondation de sa maison. Il demande donc de réparer son dommage à l'énergéticien allemand. Puis après, on a vraiment énormément d'autres actions. On en a en Irlande, on en a beaucoup aux États-Unis. On en trouve aussi en Italie, en Espagne, etc.
Alors que peuvent ces procès climatiques? Est-ce que pour vous, Audrey Pulvar, c'est d'abord une histoire d'affichage? C'est surtout d'une importance symbolique parce que ça pousse aussi les gouvernements, les exécutifs à se prononcer sur cette question, à expliquer pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'ils pourraient faire de mieux. Est-ce que c'est aussi ça, ça pousse à cette transparence, l'intérêt de ces procès, ou est-ce qu'on peut en espérer des résultats concrets?
Alors, il y a des résultats concrets avec des condamnations, des condamnations réelles et fermes, que les gouvernements décident ou pas d'appliquer, enfin de respecter, on va dire. Mais je crois que ces actions ont aussi, mais pas seulement, mais ont aussi pour mérite de mettre ces questions-là à l'agenda. D'abord, elles démontrent, parce que c'est dans le monde entier que ces actions se multiplient, elles démontrent à quel point les populations, les citoyens et les citoyennes des pays du monde entier ont conscience de la gravité de la situation, de l'urgence de la situation, et réclament à leur gouvernement et à leurs gouvernants en général des mesures concrètes, immédiates, profondes, et une transformation réelle de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de nos modes de transport, des règles internationales du commerce, pour sortir de cette machine folle qui nous conduit à la destruction de l'humain. La planète, elle va survivre, mais l'humain est en train de s'autodétruire. Alors, on peut se dire, oui, l'humain, il s'autodétruit et c'est dans longtemps, mais sauf que le chemin pour aller jusqu'à la destruction va être pavé d'épines. Ça va être un chemin de grande douleur. Et on voit bien déjà à quel point aujourd'hui les effets du réchauffement climatique poussent sur les routes des dizaines et des dizaines de millions de personnes chaque année, font des centaines de milliers de victimes chaque année. Donc on est déjà dans une situation de grande urgence. Les populations s'en rendent compte non seulement à travers ces mobilisations, mais aussi à travers des projets collectifs, des initiatives qui sont lancées. Donc tout ça est à la fois tragique dans le constat et positif dans les réactions des populations. Et tout le monde doit agir à son niveau, aussi bien les populations, le citoyen, que le ou la chef d'entreprise, que le ou la responsable de collectivité locale, ou que le ou la responsable au plus haut niveau d'un État. On doit tous réagir. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point l'évidence se heurte au conservatisme de dirigeants politiques qui manquent de courage. L'évidence, c'est quoi? L'évidence, c'est qu'on parle d'une question de santé publique et d'une question de survie de l'espèce humaine. Pas pour dans 200 ans, là, pour la fin du siècle. Combien de personnes, si on continue sur cette trajectoire, vont périr d'ici la fin du siècle du fait des dérèglements climatiques? Aujourd'hui, en France, on a déjà 48 000 décès précoces chaque année du fait de la pollution atmosphérique. C'est 500 000 décès précoces chaque année à l'échelle de l'Union européenne du fait de la pollution atmosphérique. On y est déjà. Ça se chiffre en perte de vie. Et je ne comprends pas que cette évidence ne mobilise pas de façon cruciale l'ensemble des classes politiques et que ce soit les populations qui aient chaque vendredi ou tous les dimanches ou par toutes les actions dont on a parlé à secouer les politiques, à leur faire prendre conscience de la gravité de la situation.
Et la relève est déjà là et c'est ce qu'on entendait dans la voix de Greta Thunberg. Il faut arrêter d'agir pour les générations futures. La génération future, elle est déjà là.
Absolument.
Aussi. Cette jeunesse qui a de son côté décidé de ne pas attendre la réponse de l'État à l'appel donc de Greta Thunberg, c'était à Davos, puis ensuite ils feront grève scolaire une fois encore ce vendredi et marcheront dans les rues de Paris et du monde entier dans les pas du mouvement Friday for Future.
On a l'impression que l'économie c'est vachement important, etc. Bien sûr que c'est ça qui fait vivre un pays, mais pour qu'il y ait un pays, il faut qu'il y ait une planète. Et si la planète on la détruit non-stop, bah, il n'y aura plus d'économie du tout.
On entend par exemple le gouvernement qui souhaite un projet de loi pour réformer la constitution et inscrire la protection de l'environnement dedans. En réalité, toutes les dispositions législatives elles existent. Et ce qu'on demande, c'est que ça soit appliqué concrètement. C'est bien beau d'organiser un One Planet Summit par exemple en France, mais si nous-mêmes on n'est pas à la pointe et qu'on ne respecte pas les engagements que nous nous fixons, à quoi ça sert?
Voilà, les jeunes français pour le climat dans la rue, c'était le 15 février dernier, avant la nouvelle manifestation, mobilisation de vendredi. La chercheuse Anne Muxel, dans le prochain numéro du 1 qui sort demain, souligne l'inventivité que déploie cette jeunesse, mais souligne aussi un combat qui serait plus moral que politique, Fanny Jansetto. Il faut additionner toutes ces démarches pour réussir à obtenir quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il faut rester aussi dans cette forme de manifestation qu'est la marche, le slogan pour faire entendre sa voix? Parce qu'il y a aussi des discussions au sein de cette jeunesse entre le mode d'action, le type d'action à utiliser, la question de la violence ou de la non-violence.
Bien sûr, on pense que c'est des actions qui sont complémentaires et c'est la raison pour laquelle notre affaire à tous a rédigé le manifeste dont vous avez parlé au début. L'objectif justement, c'est d'inciter à ces différentes formes de mobilisation. Alors nous, évidemment, on appelle toujours à une mobilisation qui est non violente, absolument pas violente, mais on est persuadé que ce sont des modes d'action qui sont complémentaires avec celui de la justice. La justice, ça prend un certain temps. Et à côté de ça, on montre que les personnes sont mobilisées, qu'elles sont conscientes qu'elles sont déjà atteintes des changements climatiques, qu'elles veulent changer. Et ça va plus loin, en effet. On veut changer en fait d'utopie, on veut changer de système, on veut en finir avec la croissance absolue, etc.
Si jusqu'ici les mouvements, ces appels n'ont pas été politiquement très efficaces ou opérants, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent l'être d'un point de vue juridique? Est-ce que ça peut vraiment faire avancer les choses? Vous avez tous les outils juridiques suffisants, nécessaires pour faire aboutir cette démarche?
Vous voulez dire l'affaire du siècle? J'en suis intimement persuadée, sinon je pense que j'aurais vraiment pas choisi ce métier-là. L'État, en fait, s'est encore une fois engagé par le biais d'énormément de traités internationaux, par le biais aussi de sa constitution, et ces engagements, ils ne sont pas respectés. Donc, on l'a vu avec le cas Urgenda, je suis intimement persuadée que les juges auront le courage de sanctionner l'État et que ça créera un mouvement supplémentaire pour la justice climatique. Oui.
Audrey Pulvar,
il faut continuer, il faut pas lâcher, vous savez, Angela Davis qui dit encore aujourd'hui, vous savez, nous, quand on se mobilisait pour les droits civiques, quand on se mobilisait contre la guerre du Vietnam, on manifestait pendant des années. C'était pas une après-midi, c'était pendant des années. Donc il faut continuer. Il faut continuer l'action, il faut continuer la mobilisation.
C'est l'affaire du siècle. Voilà. Il reste donc un siècle pour réussir à convaincre. Merci beaucoup à vous, Audrey Pulvar, et merci à vous, Fanny Jansetto, d'être venue autour de cette grande table. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la grande table qui a préparé et programmé cette émission, avec aujourd'hui à la technique Jean Guilhemège.